Bonjour à tous, on va se mettre au travail. Cette séance est une séance en fait de cinématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de mécanique, hein, comme je vous l'avais annoncé l'autre jour, ou au moins certains. On ne va pas aujourd'hui écrire de loi de physique, on va apprendre à décrire la transformation géométrique d'un système matériel. D'accord ? Donc en fait, le travail est essentiellement à teneur mathématique, et on va considérer deux façons de procéder, qu'on va appeler respectivement avec les noms illustres que vous avez sur les écrans, c'est-à-dire Euler et Lagrange, d'accord. On va appeler ces deux modalités de description de la transformation la voie eulérienne et la voie lagrangienne. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui ressemble essentiellement à de la géométrie différentielle. Ce n'est pas forcément les chapitres de mathématiques dans lesquels vous avez le plus travaillé, mais vous verrez qu'il n'y a pas, a priori, de grandes difficultés. Ok, alors on va commencer tout de suite avec la perception géométrique que nous allons avoir d'un système matériel. Le point de vue qu'on va adopter pour représenter la géométrie du système est en fait, pour le moment, on ne fera pas toujours comme ça, notamment vers la fin du module, on verra une autre voie, mais pour le moment, ce que nous allons faire, c'est adopter la voie la plus naturelle, c'est-à-dire qu'on va représenter la géométrie du système par sa réalité tridimensionnelle. D'accord ? Donc on ne va pas chercher du tout à finasser. Vous verrez que quand on considérera par exemple des problèmes de poutres, eh bien on aura envie de tirer parti du caractère élancé de l'objet. D'accord ? Dans certains problèmes où on a des objets relativement aplatis, comme des tôles par exemple, on aura envie de tirer parti de la faible épaisseur, et donc on prendra des modèles qui seront, dans le cas des poutres, eh bien des modèles d'arc, dans le cas des tôles, bah des modèles de surface, d'accord. Ce sont des choses qu'on fait de manière extrêmement courante, si bien qu'en fait, il y a une réflexion qui est prise au plan de la description géométrique du système. Pour le moment, on laisse tout cela de côté, c'est-à-dire qu'on va simplement aborder le système matériel de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire à partir de la perception tridimensionnelle qu'on en a. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler un système matériel ? Eh bien, on va évidemment le suivre a priori sur un certain intervalle d'étude. On va prendre un temps arbitraire, par exemple le début de l'intervalle d'étude. Et à cet instant, on va se donner un volume dans l'espace et on va définir le système matériel par l'assemblée des particules qui sont contenues dans ce volume. Donc, par exemple, ici, vous avez cette chose bizarre en bleu. Mettons que l'instant T soit l'instant pris comme référence. Eh bien, je vais appeler système matériel l'ensemble des particules qui, à cet instant, sont contenues dans le volume oméga T. D'accord ? Alors, tout de suite, un petit commentaire ou une petite précaution. On va souvent parler du volume matériel ou souvent désigner le système matériel par un volume. Il ne faut évidemment pas confondre le système matériel, d'accord, avec le volume qu'il occupe, ça va de soi. Mais on fera très souvent cet abus de langage, d'accord. La deuxième chose, c'est que, et ça je vous l'avais déjà annoncé, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que ce système matériel occupe un volume qui est susceptible de se déformer, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le volume qu'occupe le système à l'instant T, évidemment, est appelé à évoluer, c'est-à-dire que on va trouver les particules à un autre endroit de l'espace un peu plus tard. Je vais parler dans une seconde de la notion de configuration. Mais non seulement on va trouver le volume à un autre endroit, mais il aura a priori changé de forme. D'accord ? C'est ça qui va être l'idée principale de ce que nous allons faire dans le cadre de la cinématique, aujourd'hui dans le registre eulérien et puis très vite dans le registre lagrangien. D'accord ? Voilà. Donc, pour le moment, des choses extrêmement basiques, mon système matériel, perçu comme un objet tridimensionnel, délimité à un certain instant par une assemblée de particules contenues dans l'espace en question. Alors, l'autre chose très importante dans ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'idée que nous allons faire une description continue de la matière. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va procéder par des champs. Ça, vous l'avez déjà fait abondamment. Et vous l'avez même fait dans des situations où il n'y a pas de matière. Quand vous avez fait de l'électromagnétisme dans le vide, par exemple, il n'y a pas de matière, et pourtant vous avez fait une description continue des variations spatiales, des champs électriques, champs magnétiques et toutes ces choses-là. Nous, bien sûr, la description continue se fera au profit de la matière. Mais il reste qu'en un certain point de l'espace, que je note pour l'instant petit x, On verra que tantôt il y a des lettres minuscules, tantôt des lettres majuscules. On va essayer de s'expliquer là-dessus. Au point petit x, à l'instant t, d'accord, eh bien, je vais être capable de définir un certain nombre de champs. Okay, bon, prenons les plus simples, le champ de vitesse, éventuellement le champ de déplacement, et puis bientôt, ce que nous allons découvrir ensemble, des champs qui nous seront extrêmement utiles, le champ de tenseur d'ordre 2 qui représente les efforts intérieurs, celui qui représente les déformations ou les taux de déformation. À chaque fois, j'ai prononcé le mot champ. Hier, avec les élèves de mon groupe, on a un petit peu travaillé sur la notion d'argument. D'accord ? Quand on dit qu'on travaille sur un champ, eh bien, on est en train d'étudier une application qui est définie sur l'espace des positions à valeur dans un certain espace physique. D'accord ? Donc, par exemple, si je prends le champ de densité volumique, eh bien, ce sera une application de R3 dans R qui, à chaque point, associe un scalaire qui est la densité du matériau au point considéré. Ça va ? Hein, donc, l'idée de champ est essentielle et elle n'est autorisée que parce que nous prenons un point de vue continu, qui va évidemment nous inciter en plus à nous livrer à du travail différentiel. Ok. Au point petit x, alors un point petit x, je pense que vous avez un petit peu parlé de mesure avec les collègues mathématiciens dans le cadre de des séances OMPI. Un point, évidemment, une mesure nulle. Nous, au point petit x, on va attacher un élément de matière. Alors, on ne va pas faire une longue dissertation là-dessus, c'est un problème qui est relativement difficile, mais on va admettre qu'il est possible, au point x, de définir un volume élémentaire représentatif. Et on va voir que ces deux mots sont un petit peu contradictoires, en fait, au moins à première vue. Volume élémentaire, d'abord, ça veut dire que ça va être un dV, un petit volume, okay, quelque chose d'infinitésimal. Ça veut dire quoi, petit ? Ben, ça veut dire, évidemment, que je vais comparer sa taille à la taille caractéristique du système et que cette taille doit être un infiniment petit par rapport à la taille caractéristique du système. Ça va ? Bon, ça, c'est le caractère élémentaire. Ok ? Maintenant, je lui demande d'être représentatif. Ça veut dire que je lui demande d'être suffisamment grand pour incorporer toute l'information dont je peux avoir besoin statistiquement pour ensuite parler d'une manière raisonnable et non fluctuante, eh bien, de la densité ou des caractéristiques élastiques ou évidemment de mes champs. Okay ? Il ne faut pas que ça bouge trop. D'accord ? Il faut qu'il soit suffisamment grand pour incorporer toute cette information. Donc, par exemple, si je prends un cristal, vous avez des cristaux, vous savez, dans les métaux ou alors dans les céramiques, pas dans toutes les céramiques, mais dans beaucoup de céramiques, vous avez des cristaux. Si je considère une structure cristalline, eh bien, l'échelle du continu à laquelle je vais m'intéresser pour définir mon volume élémentaire représentatif, elle va forcément être grande par rapport à la taille du cristal. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de physique à l'échelle du cristal, bien sûr, mais je ne ferai pas de mécanique des milieux continus à l'échelle du cristal. On est d'accord ? Ce sera une autre discipline. Donc, nous, on va se placer, hein, tout ça, je parle de tout ça, justement, parce que je pense à un exemple assez parlant. On ne va pas se placer à une échelle de description qui nous permette de voir la maille cristalline. OK ? On a une échelle qui est beaucoup plus grande. Ça va ? Ouais ? OK. Donc, autre chose sur le caractère élémentaire. Évidemment, le volume doit être, j'ai dit, suffisamment grand, mais en même temps, il ne peut pas être trop grand, parce que s'il est trop grand, je vais avoir des variations à l'intérieur de ce volume élémentaire de mes champs. Non, moi, je veux que je puisse parler du champ électromagnétique, du champ E au point X, du champ B au point X, d'accord ? Ça veut dire que je fais référence à une taille à laquelle je peux négliger les variations des champs. Ça va ? Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'en fait, les deux épithètes, volume élémentaire, représentatif, je n'ai pas marqué représentatif ici, c'est dommage, le caractère élémentaire représentatif de ce volume matériel, d'accord, ce sont deux composantes légèrement antagonistes. Okay, donc, il y a un juste milieu à trouver pour que ce volume existe. Oui ? Voilà, je ne vais pas faire une longue dissertation là-dessus. Je passe à la notion de configuration. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, puis ça se voit surtout sur le dessin. J'ai dit que mon système matériel est défini en considérant un instant arbitraire et par l'assemblée des particules contenues dans un certain volume de l'espace à cet instant. Maintenant, les particules vont bouger, d'accord ? Pas seulement, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, je l'ai déjà annoncé, ce ne sera pas des mouvements de corps rigides, c'est-à-dire que ce système va changer de configuration. Ces particules vont être à un autre endroit, à un instant ultérieur. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant T, eh bien, je parlerai de la configuration oméga T, et vous voyez que je fais un abus de langage, puisque je parle de mon système à partir du volume qu'il occupe, et puis à l'instant ultérieur, T', j'aurai une autre configuration de mon système. Donc c'est tout simple, d'accord ? Et c'est surtout le premier point de vue, d'accord ? Enfin, le premier point de vue. C'est l'un des deux points de vue pour décrire la cinématique. Et c'est le point de vue de Lagrange. Donc le point de vue de Lagrange, il est tout simple à définir. Il est, vous allez voir, peut-être beaucoup plus accessible que le point de vue eulérien. Le point de vue de Lagrange consiste à dire, ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais caractériser les transformations géométriques en donnant à chaque instant la configuration du système. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que je connais la configuration initiale en particulier, c'est-à-dire que pour chacune des particules, je sais dire où elle est à l'instant 0, okay, et je sais dire où elle est à l'instant t, quel que soit le temps t de l'intervalle d'étude. Ça va? Donc c'est un point de vue extrêmement naturel, et c'est en particulier le point de vue des mécaniciens des solides. Parce que vous allez voir que les solides sont des matériaux qui ont de la mémoire. Les efforts intérieurs qui s'y développent résultent du fait qu'ils s'écartent d'une certaine position. Par exemple, de l'état naturel. Je prends un ressort, d'accord? Je le pose sur la table. Il est dans l'état naturel. Il n'y a personne qui tire dessus. Et puis après, on vient tirer dessus. On lui donne un certain allongement. L'allongement représente le changement de configuration, finalement, d'une manière très simple, d'accord? Et à cet allongement est associé un effort. Donc je vois très bien que dans le cas d'un solide, c'est justement l'écart à une configuration, typiquement la configuration de l'état naturel, qui va m'informer sur les efforts intérieurs. Donc nous, dans ce cours, on va beaucoup manipuler ce point de vue parce que les solides sont des matériaux qui ont une mémoire. Les fluides n'en ont pas. Les fluides n'ont pas de mémoire. D'accord ? Je prends un exemple très simple. Je viens de parler du ressort. Autre modèle rhéologique très simple, le pot visqueux, dont on équipe les amortisseurs dans les voitures ou dans des tas d'autres dispositifs industriels. D'accord ? L'effort que vous avez dans un pot visqueux, il dépend de quoi? Ce qui dépend de l'écart par rapport à une position? Non, il dépend de la vitesse de sollicitation, vous savez bien. D'accord? C'est ce que vous avez souvent noté, les forces de frottement visqueux, vous savez qu'elles sont proportionnelles à la vitesse. Ben voilà. Donc l'effort qu'il y a dans mon pot visqueux est proportionnel à la vitesse, donc il ne dépend pas de l'écart entre la configuration actuelle et une certaine configuration antérieure. Non, il dépend surtout de ce qui se passe entre la configuration actuelle et la configuration immédiatement ultérieure. C'est-à-dire, en fait, il dépend de la vitesse. D'accord? Donc, vous voyez que, selon le matériau que j'ai en tête, le système matériel que j'ai en tête, je ne vais pas forcément utiliser le même point de vue. Et que le point de vue de Lagrange, que je viens de vanter au profit des solides, il va être inadapté dans les situations fluides. OK? Bon, alors, donc, on a un deuxième point de vue en réserve, qui est le point de vue de l'air. Qu'est-ce qu'il nous dit, Euler? Il nous dit quelque chose qui est un petit peu plus abstrait. Vous allez voir que les deux points de vue sont, sur le plan mathématique, rigoureusement équivalents, d'un point de vue théorique, ils sont rigoureusement équivalents, mais en fait, en pratique, on utilisera tantôt l'un, tantôt l'autre, en fonction de la nature du système et du matériau qui le constitue. Donc, que nous dit Euler? Euler nous dit, moi, je vais procéder de la façon suivante, à n'importe quel instant, je vais me donner le champ des vitesses. Quel champ des vitesses? Parce que je peux aussi parler de vitesse avec Lagrange, comme on va le voir dans le transparent suivant. Quel champ de vitesse? Tout simplement, il faut apprendre à lire ce qui est marqué ici, et on va le décortiquer ensemble. C'est extrêmement important, ce petit truc qui est aussi marqué là-bas. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Alors déjà, la notation U sera réservée pour la vitesse. Le trait en dessous, vous savez que c'est parce que c'est un vecteur, en gros, un tenseur d'ordre 1. Maintenant, il a deux arguments, la position et le temps. Et c'est ça qu'il faut apprendre à lire. Ce que j'ai marqué ici, c'est la vitesse à l'instant t de quoi? Ça qui est très important. De la particule qui, à cet instant, est au point x. À cet instant, est au point x. D'accord? Et vous voyez que je fais nullement référence à son passé et à son futur. Vous ne la connaissez même pas, cette particule. Et d'ailleurs, à un instant ultérieur, ce sera une autre particule qui sera au point x. Et je mesurerai la vitesse à cet autre instant de la partie qui, à ce moment-là, sera au point X. D'accord? Donc, pour bien comprendre ce truc-là, il faut même avoir écrit une phrase, quelque part dans sa tête ou sur ses notes, et bien comprendre que cette affaire-là représente la vitesse à l'instant T de la particule qui, actuellement, est au point X. Donc, on a coutume de dire que c'est le point de vue du radar fixe d'autoroute, d'accord? Le radar fixe d'autoroute, il mesure des vitesses, d'accord? À chaque instant, il mesure une vitesse. Il mesure la vitesse de qui? De la voiture qui passe à cet instant, à cet endroit-là. D'accord? OK? Et puis, il ne veut pas savoir si le gars il va accélérer après ou s'il avait freiné avant. Ce n'est pas grave, ça. D'accord? Lui, la seule chose qu'il sait, c'est la vitesse à l'instant T de la particule qui est au moment, à l'endroit où est placé le radar. D'accord? Alors, vous comprendrez encore mieux ce que je viens de raconter quand, dans quelques instants, je vais parler de la description lagrangienne de la même grandeur physique, la vitesse, d'accord? et avec un autre point de vue, avec le point de vue de Lagrange. Ça va? Donc, point de vue de l'air, à chaque instant, je me donne le champ des vitesses. Alors, on revient, on va faire quelques allers-retours. Vous allez voir que bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais il y a des raisons un peu profondes pour ça. Je vais parler un peu de Lagrange, là aujourd'hui, pas beaucoup, surtout pour bien justement montrer la différence de point de vue. Et ensuite, on va avoir quelques heures de travail sur Euler. Puis après, on va complètement oublier Euler jusqu'à la fin du semestre. Et on reviendra sur Euler quand on fera ensemble de la mécanique des fluides. D'accord? Mais c'est important, on comprend bien un modèle ou une approche mathématique quand on voit des approches alternatives. On comprend beaucoup mieux les choses quand on voit d'autres points de vue. D'accord? Alors, le point de vue Lagrangien à nouveau, bah, je l'ai déjà dit, je me donne toutes les configurations. Donc, en fait, pour chaque particule, je sais, en fonction de sa position initiale et du temps, où elle se trouve à chaque instant. Donc, un tout petit peu de formalisme. Voilà la configuration initiale de mon système, donc oméga indice 0. On note souvent oméga indice 0, la configuration initiale. On prend la décision que 0 est l'instant initial de l'intervalle d'étude, d'accord? Et en fait, on va caractériser la transformation entre la configuration initiale et la configuration à l'instant t. Et on va faire ce travail pour chaque instant. D'accord? Donc t n'est pas une variable. T est un paramètre dans ce point de vue-là. D'accord? Bon, après, on peut lui donner le statut de variable si on a envie. D'accord? Mais pour l'instant, t est un paramètre. La variable, c'est la position. Quelle position? Alors, on va la noter avec une lettre majuscule. C'est la position de la particule dans la configuration initiale. Dite aussi configuration de référence. Okay? Donc on va donner à chaque particule une carte d'identité, c'est sa position à l'instant 0. On la note grand X. Par opposition à sa position actuelle, petit x. D'accord? Donc on va réserver la lettre majuscule pour la description de la position initiale. Ça vaudra aussi si j'utilise un repérage cylindrique ou sphérique. D'accord? Donc on mettrait des grands R, des grands θ, des grands φ, tout ce que vous voulez pour les paramètres, pour les positions relatives à la configuration initiale. D'accord? Et puis la position actuelle sera notée avec la lettre petit x. Donc comment ça se lit ce truc-là? Ben, l'application φ, ok, me fait passer de la me fait passer de la configuration 0 à la configuration actuelle, ou encore appelée configuration déformée. Ça va? Donc, on lit ça en disant que petit x est la position à l'instant t de la particule qui était située initialement en grand X. OK? Ça me donne évidemment un champ de vecteurs. Hein, phi est un champ de vecteurs sur la configuration initiale. Alors, quand on a des champs qui sont définis sur la configuration initiale, on appelle ça des champs lagrangiens. D'accord? Quand au contraire, un champ est défini sur la configuration actuelle, on dit qu'il est eulérien. OK? Le déplacement auquel on va faire très, très souvent appel, d'accord, ben, le déplacement, c'est le vecteur, que je note ici avec la lettre grecque xi, d'accord, dont l'origine est la position initiale et dont l'extrémité est la position actuelle, tout simplement. Alors évidemment, il est marié avec phi, hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je l'ai marqué après ou pas, ouais, je l'ai marqué après, ben, évidemment xi, c'est phi moins grand x, d'accord? Ça va de soi. OK? Pas de difficulté? Voilà pour le repérage lagrangien de la transformation. Donc connaître la transformation, avoir décrit la transformation d'un point de vue lagrangien, c'est avoir été capable de se donner à chaque instant le champ de déplacement sur la configuration initiale ou le champ phi. Alors en fait, dans la pratique, on ne va pas toujours s'intéresser à tous les instants de l'intervalle d'étude. Il y a des matériaux qui sont sympathiques, qui ont des mémoires comme par exemple le matériau élastique, d'accord? La seule chose qui va importer, c'est le début et la fin de l'histoire. Ce qui s'est passé entre les deux, ce n'est pas important. Il y a des matériaux beaucoup plus compliqués, que vous découvrirez peut-être dans l'avenir, d'accord? Mais pour ce qui est du matériau élastique, comme mon ressort, si vous voulez, si je l'amène à l'allongement grand X, à l'allongement petit X, ou n'importe quelle notation pour son allongement, la seule chose qui est importante, c'est la valeur de l'allongement, d'accord? Comment vous avez amené, est-ce que vous avez fait 50 fois ce machin-là, avant de l'amener dans la position où il a l'allongement en question? Ce n'est pas important pour ce qui concerne la tension. La tension ne dépend que de l'allongement actuel. Okay? Donc, dans la pratique, on ne va pas forcément s'énerver sur tous les instants de l'intervalle d'étude. On a à le faire dans certains matériaux, les matériaux visqueux, les matériaux plastiques. Là, on doit se taper l'étude sur tout l'intervalle d'étude. Pour le matériau élastique, ce sera juste le début et la fin. D'accord? Donc, ce sera particulièrement efficace. OK. Bon, j'ai assez dit de choses là-dessus. Alors, justement, revenons un petit peu à la notion de vitesse. J'ai dit il y a un instant que le temps, dans la description lagrangienne, n'est pas une variable, c'est un paramètre. D'accord? Je peux avoir le point de vue inverse. Je peux avoir le point de vue qui consiste à dire, moi, je vais me focaliser sur une particule. Et au contraire, suivre sa vie dans l'intervalle d'étude. D'accord? À ce moment-là, j'ai à disposition la relation petit x égale phi grand x de t me donne évidemment plus que la trajectoire. Elle me donne la loi horaire. D'accord? Maintenant, t est la variable. D'accord? T varie dans un certain intervalle d'étude. Et à chaque instant, je sais où se trouve la particule qui était initialement en grand x. D'accord? Position at de la particule initialement en grand x. Donc elle était là, maintenant elle est là. Je suis capable de suivre sa vie sur la trajectoire, et donc je dispose de la loi horaire. En particulier, je suis capable de calculer sa vitesse. D'accord? Tout simplement, comme vous l'avez fait 2000 fois, en dérivant la loi horaire. Okay? Donc si je veux la vitesse, j'ai pas besoin nécessairement de faire appel au point de vue eulérien. Pas du tout. Je peux très bien parler de vitesse dans le cadre du point de vue lagrangien, et la preuve, si je veux la vitesse, je dérive par rapport au temps. D'accord? Donc ça, c'est aussi la vitesse. Alors on va la noter avec la lettre grand U, au moins au début, pour ne pas se faire peur, d'accord, pour bien dissocier le point de vue lagrangien du point de vue eulérien, d'accord. C'est une vitesse qui est lagrangienne, mais c'est une vitesse tout court. C'est-à-dire, c'est vraiment la vitesse des familles, celle que vous avez pratiquée depuis que vous êtes tout petit, d'accord. Sauf qu'elle n'est pas argumentée de la même manière. Et il faut lire les choses correctement. Qu'est-ce que c'est que grand U de grand X et de T? C'est la vitesse à l'instant T, mais de la particule qui était initialement en grand X. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux entités. Alors, il doit y avoir un truc ici qui dit ça. Voilà. On va regarder tout de suite ce truc-là. Je parlerai du reste après. Voilà. Grand U de grand X et T, c'est pas la même chose que petit U de grand X et T. D'accord? Petit U de grand X et T, ce serait la vitesse à l'instant T de la particule qui actuellement est en grand X. D'accord? On a dit que c'est comme ça que ça se lisait, petit U. Donc, ce qui est important, c'est les adverbes que je mets à côté. D'accord? Petit u, c'est actuellement. Grand u, c'est initialement. D'accord? Donc, vous pouvez marquer les deux adverbes à côté, si ça vous fait plaisir. Et donc, vous avez, encore une fois, grand u de grand x, c'est t, vitesse at, de la particule initialement grand x. Petit u, ici, ce serait vitesse at de la particule actuellement en grand x. Et évidemment, si la particule a bougé, ça va pas donner le même résultat. Voilà. Alors, si je veux calculer la vitesse, rien de plus simple. Puisque vous faites comme vous avez toujours fait, vous dérivez par rapport au temps. Alors ici, j'ai fait apparaître des dérivées partielles. Oui, grand X, il bouge pas. C'est le nom de la particule. C'est sa position initiale. Ça ne dépend évidemment pas du temps. Donc quand vous dérivez par rapport au temps, vous dérivez sereinement par rapport au temps, comme vous avez toujours fait. Sauf que comme la variable, qui joue ici le rôle de paramètre, grand X, ne bouge pas, vous dérivez simplement par rapport au temps, dans le cas d'une dérivée partielle pour ce qui concerne phi et xi. Évidemment, ça donne le même résultat, puisque la différence entre xi et phi, c'est grand x, et grand x est une constante du point de vue de la dérivation par rapport au temps. Ça va? C'est compris pourquoi on a cette égalité-là? Ouais. Super. OK. Alors, en revanche, j'ai dit tout à l'heure que les deux points de vue, le point de vue de l'air et le point de vue de Lagrange, sont rigoureusement équivalents d'un point de vue théorique. Si je veux passer de l'un à l'autre, je fais comment? J'écris ça. J'écris ça. Je suis capable, dans le cadre des deux points de vue, de parler de la vitesse. Eh bien, puisque je parle de la même quantité physique, si je m'intéresse à la même particule matérielle, je vais trouver le même résultat. Donc, il faut simplement que je sois capable d'exprimer en Lagrange le membre de droite, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t, de la particule qui, en ce moment, est au point petit x. D'accord? Ce sera évidemment la vitesse lagrangienne à l'instant t de la particule qui était initialement en grand X, pourvu que petit x soit la position actuelle de la particule qui était initialement en grand X. Et c'est ce qui est marqué au-dessous. Donc si vous êtes capable de résoudre ce problème de mathématiques, c'est fini. Vous avez été capable de passer de l'air à Lagrange. D'accord? On verra ça sur des exemples tout à l'heure, et puis vous en ferez peut-être en petite classe. Puis il y en a dans les ressources pédagogiques qui vous sont proposées sur EducNet. Voilà. OK. Alors, on va se donner un petit exemple pour jouer. Par exemple, on va prendre des trajectoires radiales. D'accord? Je suppose que ma fonction phi de grand X de t a la forme qui est indiquée ici. Forme évidemment très particulière, d'accord? Et vous devinez ce qui se passe. Il se trouve que les positions initiales et actuelles sont alignées par rapport à l'origine. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une trajectoire radiale. Okay, et vous vous doutez bien que la fonction du temps ici va tout me donner sur la loi horaire, d'accord? C'est-à-dire va m'indiquer comment la particule va se déplacer sur un rayon. C'est-à-dire, sa trajectoire, c'est de façon évidente, la demi-droite qui part de l'origine et qui passe par la position initiale, je vais me promener sur cet objet, d'accord, avec la fonction, selon la fonction f de t. J'ai marqué ici f de 0 égale 1. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'à l'instant t égale à 0, je suis dans la configuration initiale. Donc, il faut que f0 soit égal à 1 pour que petit x soit égal à grand x. D'accord? Donc, ce n'est pas un truc que j'ai rajouté en plus, c'est parce que c'est une obligation. Okay? Sinon, ça ne décrirait pas un mouvement. Oui? Voilà. Alors, avec ce truc-là, je peux évidemment calculer une vitesse lagrangienne. D'accord? Voilà, la vitesse lagrangienne, ça c'est la vitesse à l'instant t de la particule qui était initialement en grand x. D'accord? Voilà, ça c'est mon grand U de grand x et de t. C'est comme ça qui vaut. C'est immédiat, je pense. Hein. Mais évidemment, je peux, à partir... Donc ça, on est bien d'accord que ça, c'est un truc de la forme phi de grand x et de t, c'est-à-dire c'est une description lagrangienne d'une certaine cinématique. Comment je fais pour trouver la description eulérienne du même mouvement? Selon le mode d'emploi qu'on a indiqué. On va dire que grand U est égal à petit u en des points, au même instant en des points homologues. Hein. C'est comme ça qu'on retient ce truc-là. Grand U et petit u sont égaux au même instant en des points homologues. D'accord? C'est-à-dire en des points de l'espace homologue, c'est-à-dire au point petit x et au point grand x qui sont associés par la transformation. Oui? Donc, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement éliminer grand x ici dans le cadre de cette relation. Je vais éliminer grand x, c'est évidemment petit x sur f de t. Et voilà maintenant que je suis capable de dire ce que vaut la vitesse. D'accord? À l'instant t, au point petit x de la configuration actuelle. D'accord? Et vous avez fait votre passage de Euler-Lagrange. Donc voilà la description lagrangienne d'une transformation à trajectoire radiale, et voilà la description eulérienne correspondante. Ça va? Pas de difficulté? Ok. Alors là, maintenant, on va utiliser ce qu'on a fait abondamment dans le cadre d'OMPI. Je vais juste rajouter un truc. Ça va, vous m'entendez bien, en fait? Oui. Et qu'est-ce qui manque? Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin que ce que vous avez fait, par exemple, dans le cadre des cours de sciences industrielles, c'est-à-dire qu'on veut dépasser le cadre des solides rigides. On va même prendre comme référence la transformation dite rigidifiante, transformation de corps rigide, pour définir ensemble, maintenant, ce qu'on appelle la déformation, ou plus exactement, puisque je vais être dans le cadre eulérien, le taux de déformation. Ok? C'est ça qu'on va faire. Donc, on va voir quel est l'outil mathématique qui est adapté pour positionner notre transformation par rapport à une situation où il n'y aurait pas de déformation au sens de tout le monde, c'est-à-dire par rapport à la situation de l'isométrie. C'est ça qu'on va aller faire ensemble. On a besoin d'un petit travail préliminaire que je vais détailler ici, qui s'appelle la loi de transport de la matière en Euler. Alors, vous avez ici un vecteur matériel, d'accord, c'est-à-dire un segment de matière de petite taille par rapport à la taille caractéristique du système, d'accord. Petit pourquoi? Parce que j'ai envie de faire du calcul différentiel juste après. C'est pour ça que je ne peux pas le prendre trop grand, d'accord. Et c'est un segment matériel, c'est-à-dire c'est une assemblée de particules, mais qui sont organisées spatialement selon un segment au sens de ce terme en mathématiques, d'accord. Et ça, c'est en bleu, ce que vous avez, c'est sa configuration actuelle, la configuration à l'instant t. Moi, j'aimerais bien savoir si je suis capable de dire où il va se trouver à un instant ultérieur immédiatement voisin, c'est-à-dire à un instant t plus dt. Ouais, est-ce que je suis capable de faire ça? Et ça, ce sera donc passer de la configuration actuelle t à la configuration immédiatement voisine t plus dt, ça s'appelle une loi de transport. Okay? Et on veut définir la loi de transport. Alors, on peut transporter des vecteurs matériels, d'accord, mais on peut aussi transporter des éléments d'air infinitésimaux, des volumes, on peut faire toutes ces choses-là, évidemment. Là, on fait le travail au profit d'un vecteur. Bon, où est-ce que je vais le trouver, ce gars-là, à l'instant immédiatement ultérieur? Eh bien, il suffit que je connaisse le déplacement des extrémités. Ben, il n'y a pas de difficulté, parce que je connais la vitesse du point X, d'accord? La vitesse du point X, encore une fois, c'est une façon un petit peu trop, pour le moment au moins, un peu laconique de parler. Je connais la vitesse de la particule matérielle qui est actuellement située au point X. Okay? Donc, je connais en particulier son déplacement entre l'instant T et l'instant immédiatement ultérieur T plus DT. Il suffit de faire le produit de la vitesse par DT. Vous savez que personne ne sait mesurer une vitesse. Hein, vous avez votre truc là, vous avez une montre qui va vous donner votre vitesse quand vous vous déplacez. Ok, comment elle fait? Bah, elle travaille avec un GPS. Le GPS, il fait quoi? Bah, il regarde deux positions et puis il divise par l'intervalle de temps que vous avez mis pour vous déplacer entre ces deux positions. D'accord? Donc en fait, une vitesse, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est ce que c'est mathématiquement, mais c'est la limite d'un taux d'accroissement. On est bien d'accord. Donc en fait, ce qu'on sait, en fait, c'est ce que vaut le déplacement. Donc ce que je raconte, c'est un petit peu le... C'est un petit peu bizarre quand même, mais on est tous d'accord que le déplacement de la position de l'origine de mon vecteur matériel, bah, ça va être la vitesse fois dt. De la même manière, le déplacement de l'extrémité, ça va être quoi? Bah, ça va être la vitesse de l'extrémité fois dt, de la même façon. Mais ils ne vont pas se déplacer de la même manière puisqu'ils ne sont pas, évidemment, au même endroit et que u a le droit de varier entre x et x plus dx. Okay? Et ce que je vais enregistrer, c'est ça qui va conditionner le changement d'orientation et peut-être aussi de dimension de mon vecteur matériel, et ben c'est la variation de U entre X et X plus DX. Or, ça, on a appris, c'est marqué là, on a appris à en parler. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous avait fait un petit peu de calcul tensoriel et de calcul différentiel sur les tenseurs. C'est parce que c'est une obligation pour pouvoir s'exprimer sur ce genre de problématique. D'accord? Alors, on va regarder ça tout simplement. Le vecteur rouge, donc c'est la configuration à l'instant T plus DT de mon vecteur matériel, il a été transporté, d'accord? On dit que c'est un transport convectif, transport par le mouvement, d'accord? Eh bien, je vois bien que le rouge, c'est moins ça, plus ça, plus ça. Donc, c'est moins U de X, je fais une relation de Chal toute bête, quoi, hein, je n'ai pas besoin d'y passer deux heures, hein, moins ça, plus ça, plus ça. C'est ça qui était écrit ici, OK? Donc, si je m'intéresse à la vitesse de mon vecteur matériel, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement dx t plus dt moins dxt sur dt, quand dt tend vers 0, bah, je vais trouver quoi? Bah, je vais trouver juste, bah, évidemment, la vitesse de mon vecteur, okay, et puis je vais trouver juste ce qui reste divisé par dt, d'accord? C'est-à-dire, comme je l'annonçais, la variation de la vitesse entre l'origine et l'extrémité de mon vecteur. Ça va? Or, moi, je suis le gars qui a appris un petit peu de calcul différentiel sur les tenseurs et je sais calculer la variation d'un champ entre deux positions qui sont éloignées de façon infinitésimale. J'utilise le gradient. D'accord? Si je veux parler de la petite variation de U entre X et X plus DX, j'utilise cette règle-là. Et donc, ça devient génial parce que ça veut dire que la vitesse DX, la vitesse d'un vecteur matériel, en fait, c'est un endomorphisme défini sur la configuration actuelle. Puisqu'évidemment, ça va être tout simplement l'endomorphisme associé au gradient. On est d'accord ou pas? Hein, vous regardez, dx point sur dt, c'est grade u contracté avec dx. Vous avez appris dans le cadre des séances OMPI que l'application qui a dx associe grade u contracté avec dx, ou l'application qui a un vecteur V associé T contracté avec V, c'est l'endomorphisme qui est associé au tenseur T. D'accord? C'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Alors ça, c'est juste pour, par coquetterie que je dis ça. Ce qui est surtout important, c'est de retenir cette règle très simple. C'est-à-dire que je peux calculer les vitesses des vecteurs si je connais la description eulérienne du mouvement, si je sais dire comment le champ des vitesses varie dans l'espace à l'instant T, d'accord? Et à ce moment-là, c'est juste une application linéaire. Oui? Il y a une question? Ouais, alors, oui, d'accord. Le point qui est au-dessus du vecteur, ça veut dire dérivé par rapport au temps. D'accord? Ouais, je vais l'utiliser abondamment aujourd'hui. OK? Et c'est une dérivée sereine, hein, c'est-à-dire c'est pas une dérivée partielle. Allez, je dérive le bazar. Ça va? Bon, alors à partir de ça, je vais pouvoir faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire je vais pouvoir positionner ma transformation par rapport à une isométrie. Je vais être capable de quantifier l'écart à l'isométrie. Et c'est ça, parler des déformations d'une transformation. Si je suis dans une isométrie, c'est quoi une isométrie? Une isométrie, c'est une application de l'espace qui conserve les longueurs et les angles. On est tous d'accord? Donc en fait, elle conserve le produit scalaire. C'est-à-dire que si je prends deux vecteurs dans la configuration AT, ok, et je les suis dans leur mouvement, chacun d'entre eux, avec la, ben je sais le faire maintenant, voilà, je sais dire comment ils vont se balader dans l'espace, donc je sais dire comment, où je vais les trouver à l'instant immédiatement ultérieur, et ben ces deux vecteurs ont gardé les mêmes longueurs et forment toujours le même angle. C'est ça une isométrie. Donc l'isométrie, c'est par définition la transformation qui conserve le produit scalaire. Donc si moi je veux savoir si ça se déforme, ben, il est très naturel de se dire, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'écart à l'isométrie. Donc je vais prendre le produit scalaire de deux vecteurs dans la configuration AT et je vais le dériver par rapport au temps. Et normalement, ça devrait être une bonne indication de la déformation. Parce que d'abord, si la transformation est rigidifiante, le résultat, ce sera zéro. On est bien d'accord? Voilà. Bon, ben, il n'y a rien de plus simple, parce que je sais calculer une dérivée de vecteur, donc je sais calculer la dérivée d'un produit de vecteur, que ce soit un produit tensoriel ou un produit mixte ou un produit scalaire. Ici, c'est un produit scalaire. Tous ces produits se dérivent comme vous avez appris en première. Hein. Donc, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Ben là, c'est juste pareil. Donc, je dérive mon produit scalaire de mes deux vecteurs. Donc, j'ai pris deux vecteurs dans la configuration à l'instant T. Attention, le prime ici, c'est surtout pas une dérivée. Ça veut dire que c'est un autre vecteur. J'ai pris le vecteur DX indice T, c'est-à-dire c'est un vecteur matériel de la configuration à l'instant T, puis je prends un ami à lui, juste à côté, d'accord, je vais même faire un petit dessin, voilà, vous avez vos deux vecteurs, et puis ils ont la même origine, mettons, ben, ils vont tous les deux changer d'orientation, et a priori, l'angle formé par ces deux vecteurs ne sera pas le même dans la configuration AT plus DT, d'accord, et c'est de ça dont je voudrais un petit peu parler. Comment change-t-il de longueur? Quelle est la variation de l'angle entre ces deux vecteurs? Ok, ben, il va y avoir un objet extrêmement efficace pour répondre à ces deux questions, c'est ce qu'on va appeler dans une seconde le tenseur taux de déformation, qui est un tenseur d'ordre 2 symétrique. Alors on va le faire apparaître, il est déjà au tableau d'ailleurs, regardez, ici on va prendre le deuxième terme, c'est le plus facile, je veux la dérivée par rapport au temps de dxt'. Ben, j'applique la règle qui est au-dessus, ça va être gradient de u contracté avec dxt'. Il est là, ici, c'est celui-là, gradient de u contracté avec dxt'. Et puis ici, il est en produit scalaire avec dx indice t. D'accord? Ça, c'est le deuxième terme. Alors, j'aurais dû l'écrire comme ça. Par contre, le premier terme, ben, il est là. Alors, pourquoi il y a une transposée ici? Ben, parce qu'en fait, je vais m'intéresser à cet objet. Il est donné ici, mais c'est marqué sur le tableau qui est là. Et puis, vous le savez bien, le produit contracté entre un tenseur d'ordre 2 et un vecteur n'est pas commutatif. D'accord? Mais on peut s'en tirer en mettant une transposition ici. D'accord? C'est-à-dire que mon ami dxt dérivé par rapport au temps, je vais l'écrire dxt contracté avec transposé de grade. D'accord? Oui? Voilà. Donc ça devient un dxt contracté avec, il est là, contracté avec transposé de grade. D'accord? Et puis ensuite, j'ai un produit scalaire avec dxt prime. Ok? Bah, c'est fini. Vous avez sous les yeux le résultat. Alors, j'ai pas encore mis la notation, mais vous voyez bien que vous avez un tenseur d'ordre 2, qui a un coefficient à un demi près et la partie symétrique du gradient, de U, qui est donc une forme bilinéaire, un tenseur d'ordre 2, elle opère sur quoi cette forme bilinéaire? Ben, elle opère sur la configuration actuelle, et elle mesure quoi? Ben, elle mesure l'écart à l'isométrie, puisqu'elle mesure la dérivée du produit scalaire. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est fumeux ce que je viens de raconter? C'est pas forcément trivial, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est très logique, c'est impitoyable. Si vous regardez le truc, vous avez bien fabriqué une forme bilinéaire, c'est un tenseur d'ordre 2. L'opère sur quoi? Ben, regardez les arguments, ils sont là. Vous vous souvenez de cette formule, hein? Vous vous souvenez de cette formule tout à fait importante, surtout si je trouve un crayon. Vous souvenez de ce bazar-là, c'est que quand vous avez un tenseur d'ordre 2 qui opère sur un couple de vecteurs, ce machin-là, c'est évidemment U contracté avec T, contracté avec V, et vous savez qu'il n'y a pas besoin de... Moi, j'ai mis des parenthèses, mais je n'ai pas besoin d'en mettre, parce que le résultat est indépendant de l'ordre dans lequel vous effectuez les contractions. D'accord? Oui? Donc, vous voyez bien que ce que j'ai ici, c'est mon tenseur grade U plus transposé de grade U, qui opère sur le couple de vecteurs DXT, DXT'. Donc, c'est bien une forme bilinéaire définie sur la configuration actuelle et qui mesure l'écart à l'isométrie, puisqu'elle mesure la dérivée du produit scalaire. D'accord? Ouais? Alors, on a eu une discussion hier avec certains de vos camarades, je disais tout à l'heure, c'est la notion d'argument. Il faut bien voir ici, c'est que ce dont je suis en train de parler, c'est d'un objet au point petit x de l'espace. D'accord? Je suis en train de m'intéresser à ce qui se passe au point petit x et immédiatement dans son voisinage. Donc je suis en train de parler du tenseur qui va me permettre de parler des déformations superlocales. D'accord? Je change de point, je change de tenseur. D'accord? Donc, ce tenseur au point petit x, il opère sur R3 cours R3, c'est-à-dire sur la configuration actuelle. D'accord? Mais évidemment, il est lui-même l'image d'un champ de tenseur au point petit x. D'accord? Il est l'image du champ de tenseur, qu'on va appeler taux de déformation dans une seconde, au point petit x. C'est-à-dire qu'il a un argument lui-même qui le distingue des autres taux de déformation, c'est de quel endroit de l'espace je parle. Et évidemment, les déformations ne vont pas, en général, être homogènes. C'est-à-dire ce qui se passe ici, ce qui se passe là, ça n'a rien à voir. Oui? C'est compris ce que je viens de raconter, là? Je ne veux pas en rajouter, parce que sinon, vous allez croire que c'est difficile, alors que ça ne l'est pas. Pas de questions? Super. Ok. Alors, le taux de déformation, c'est pas ça, d'accord? Pour des raisons qui sont des raisons de commodité, d'accord? On dit que D, c'est la partie symétrique de gradient de U, c'est-à-dire c'est 1/2 de gradient de U plus transposé de gradient de U. Si on met le 2 là, c'est parce que ça rend des services, ou le 1/2 comme vous voulez, c'est parce que ça permet de ne pas le traîner à d'autres endroits. D'accord? Voilà. Donc, ça, ce que vous avez ici, c'est la définition intrinsèque du taux de déformation. Ok? Cette formule vous dit ce qu'il fait, à quoi il sert. Il sert à calculer la dérivée du produit scalaire. D'accord? Et en fait, il est défini, c'est haut de point X, une forme bilinéaire qui me donne l'écart à l'isométrie. Ça va? Bon. Puis alors, retenez bien ce truc-là. Je vais tout de suite écrire au moins en cartésienne une formule que vous allez retenir jusqu'à votre retraite, d'accord? C'est-à-dire vers l'âge de 80 ans, normalement. Sauf que j'ai encore pas mon crayon. Voilà. Donc si je suis en cartésienne, qu'est-ce que c'est que DIJ? Je suis en train de m'intéresser à la matrice dans une base cartésienne orthonormée du tenseur taux de déformation que nous venons de définir ensemble. D'accord? C'est la partie symétrique du gradient. Donc déjà, quel est le terme général du gradient en cartésienne orthonormée? Qui me le propose? Le terme général du gradient. Vous avez vu hier, début de la séance sur le calcul différentiel, comment je définis le gradient d'un champ de vecteur en cartésienne. Ah tiens, là, je trouve que c'est un tenseur d'ordre 2. Et sa matrice en cartésienne orthonormée n'est autre que la matrice jacobienne. D'accord? Donc en fait, ça va commencer par le terme général de la matrice jacobienne, DUI sur DXJ, d'accord? Et puis ensuite, je vais prendre la matrice transposée, donc j'ai interverti I et J. Donc ça va être DUJ sur DXI. D'accord? Et puis en fait, je prends la moitié du bazar. OK? Évidemment, cette formule, ça va de soi, n'est valable qu'en cartésienne orthonormée. OK? Sinon, il faut faire un petit peu de calcul différentiel. OK. Alors, moi, je lâche, je suis la personne qui parle, là. Et puis, j'ai dit, ouais, c'est génial, parce qu'en fait, ça me renseigne sur l'écart à l'isométrie, parce que j'ai la dérivée du produit scalaire. Ça reste quand même un petit peu sibyllin, peut-être. Est-ce qu'on peut être plus concret? Est-ce qu'on peut montrer que ce bazar me permet effectivement de toucher du doigt ce que tout le monde va appeler la déformation? D'accord? On va commencer par le plus simple, c'est la déformation volumique. On va être capable, avec cet outil, de prévoir les variations de volume d'un élément de matière entre deux configurations infiniment voisines. On va être capable de calculer, si vous voulez, le dV point, la dérivée par rapport au temps du volume qu'occupe la particule matérielle. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, la particule matérielle, c'est un truc vachement savant, c'est un volume élémentaire représentatif, etc. Oui, c'est aussi, à un certain instant, ça occupe un volume. Oui, mais à un instant ultérieur, ce ne sera pas le même volume, sauf si votre matériau est incompressible. Mais en général, il ne l'est pas. il va changer de volume. D'accord? Surtout dans les moteurs ou dans les trucs comme ça. Super important. Nous, très souvent, on sera capable de le calculer, mais on ne va pas trop s'en occuper du changement de volume. Mais aller travailler chez Renault, vous allez voir, c'est beaucoup plus important que ça. D'accord? Enfin, si vous êtes chez un motoriste, quoi. OK, comment on va calculer une variation de volume? Eh bien, en utilisant la définition. C'est quoi un volume? Je prends un petit parallépipède, rectangle ou pas d'ailleurs. Comment je calcule son volume? À l'aide du déterminant formé par les trois vecteurs. D'accord? En me débrouillant pour que le machin soit direct. OK? Donc voilà la définition, voilà le mode d'emploi pour calculer un volume. Ça fait partie de votre cours de maths. C'est le chapitre que vous étudiez jamais beaucoup. Hein, mais un volume, c'est ça. D'accord? Un volume élémentaire d'un parallépipède. Je vais l'avoir très facilement en calculant le déterminant des trois vecteurs, de trois arêtes de ce machin-là, et puis je m'arrange pour, encore une fois, pour avoir le bon signe. OK? Une fois que j'ai fait ça, si je veux calculer la dérivée par rapport au temps du truc, bah c'est super simple, puisque je connais la dérivée de chacun des vecteurs, DM1, DM2, DM3, les arêtes bien choisies de mon parallélépipède, ce sont des vecteurs matériels. Je sais ce qui va leur arriver. Je suis capable maintenant de les suivre leur vie entre l'instant T et l'instant T plus DT. D'accord? Donc je suis capable, et c'est marqué ici, c'est rappelé ici, j'ai juste recopié ici la loi de transport des vecteurs matériels en Euler. Oui ou non? Ça va ça? C'est bon? Bon, super. Donc, ben maintenant, je vais dériver mon produit mixte. Comment je dérive un déterminant? Ben, comme n'importe quel produit, hein, la dérivée de UVW, c'est U'VW plus UV'W plus UVW'. Ben, c'est pareil pour le produit de trois vecteurs que je mets dans un déterminant. Parce qu'un déterminant, c'est un produit. Voilà, ben, j'y vais. Quand je vais dériver mon volume par rapport au temps, donc à nouveau, le point au-dessus, ça veut dire dériver par rapport au temps, ben, je vais dériver la première colonne, je ne touche pas aux deux autres, je vais dériver la deuxième colonne, je ne touche pas aux deux autres, je vais dériver la troisième colonne, je ne touche pas aux deux autres, et je fais la somme. Oui? C'est exactement ce qui est marqué ici. Alors pourquoi ça s'est simplifié joliment comme ça? Ben, parce que je vais appeler DL indice I, la longueur à l'instant T, du vecteur DMI, d'accord? Un produit mixte, ça a le mérite d'être une forme trilinéaire, d'accord? Souvenez, forme trilinéaire alternée, d'accord? Donc, ben, en fait, je vais pouvoir factoriser, puisque c'est linéaire, ben, je vais pouvoir factoriser mon DL1, mon DL2 et mon DL3. Hein, ici, j'ai dit que ça ne bougeait pas. Ici, j'ai DL2, E2, DL3, E3. Ben, voilà le DL2, voilà le DL3. Et puis ici, j'ai gradient de U contracté avec DL1, E1. Puis le DL1, c'est linéaire, je le mets dehors. C'est compris? Ça va? Puis je fabrique évidemment les deux autres exactement de la même manière. Ouais? Bon, ben maintenant c'est fini, il n'y a plus qu'à. Hein. Qu'est-ce que c'est que gradient de U contracté avec E1? Alors, on vous a mis plein de choses dans la tête là en deux jours. On est conscient que c'est beaucoup de choses. En même temps, c'est tout à fait à votre portée, pourvu bien sûr que vous travaillez un petit peu. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a une petite marche là tout de suite au début de l'année. Qu'est-ce que c'est que gradient de U contracté avec E1? Ben, on a dit tout à l'heure que ce truc-là, là, T contracté avec U, c'est l'endomorphisme associé à U. D'accord? Donc T contracté avec E1, c'est l'image du premier vecteur de base. Ben, l'image du premier vecteur de base, c'est aussi, si je veux le représenter matriciellement, c'est aussi la première colonne de la matrice. Or, gradient de U, sa matrice, c'est la matrice jacobienne. D'accord? Donc gradient de U contracté avec E1, c'est tout simplement la première colonne de la matrice jacobienne. Et puis là, je vais avoir la deuxième, et ici, je vais avoir la troisième colonne. Donc en fait, j'ai trois déterminants. Première colonne de la matrice jacobienne, comment ça se marque? Pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec ce concept, certains l'avaient déjà vu, U8, J, I indice de ligne, J indice de colonne. Donc première colonne, ben, j'y bouge pas, c'est le même 1. D'accord? Par contre, j'ai 1, 2, 3, les trois lignes. D'accord? Deuxième colonne, si cette fois-ci c'est un 2, troisième colonne, si cette fois-ci c'est un 3. D'accord? C'est pigé? Vous calculez les trois déterminants, hein, ça ne va pas vous épuiser. Et vous allez trouver ici U1, alors virgule, qu'est-ce que ça veut dire? Virgule, c'est une autre notation pour ça, plus légère, d'accord? UI, virgule J, ça veut dire dérivé par rapport à XJ de UI. D'accord? C'est pigé? Donc, U1, virgule 1 pour le premier déterminant, ça va de soi. D'accord? Ça se voit tout de suite. Pour le dernier aussi. Puis là, vous allez développer par rapport à la première ligne. Et ensuite, vous débrouillerez. D'accord? Enfin, ça va tout seul. Et vous trouvez en fait la somme des termes diagonaux. Et là, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que, effectivement, enfin, il y a deux bonnes nouvelles. D'abord, la formule est très simple. Et puis surtout, je prouve que ça marche. C'est-à-dire que je suis effectivement capable de parler de déformation, puisque je sais rendre compte des changements de volume, d'accord, avec mon nouvel ami, qui est le tenseur taux de déformation. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi pour le tenseur taux de déformation? Quelqu'un va dire, oui, mais ça, c'est la trace du gradient. Oui, c'est la trace du gradient, mais c'est aussi, évidemment, la trace de la partie symétrique du gradient. Okay? Donc, c'est la trace de D. Donc, on va retenir cette fois. Alors, et puis, qu'est-ce que c'était que DL1, DL2, DL3? Ben, c'était le volume initial, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'avais pris mes arêtes selon j'avais dit, je prends n'importe quel parallèle bipède. Oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. D'accord? Mais à ce moment-là, le calcul ici deviendrait faux, puisque j'ai utilisé l'hypothèse que ma matrice était orthonormée pour exprimer la matrice jacobienne. D'accord? Donc, évidemment, E1, E2, E3 doivent être organisés selon les arêtes d'un parallélépipède, en fait, rectangle, d'accord? Et donc, cette affaire-là, DL1, DL2, DL3, ben, c'est le volume initial. Ça va? Oui? La formule à retenir, c'est la suivante, c'est dv point sur dv, qu'on va appeler le taux de déformation volumique, égale trace de D, ou divergence de U. Bon, pour ceux qui ont fait de la mécanique des fluides l'année dernière, c'est pas un scoop, puisque vous avez déjà rencontré cet objet, et vous utilisiez même le fait que vous étiez capable de calculer la variation de volume avec la divergence du champ aérien des vitesses. C'est votre ami, hein, celui que vous avez utilisé pour décrire les mouvements de fluide l'année dernière, d'accord, hein. Et ben, vous aviez donc une référence à la vitesse, ben là, vous allez avoir une référence au taux de déformation, d'accord, pour calculer la même quantité. Bon, vous verrez sûrement ça en exercice, mais c'est extrêmement utile, cette formule, si par exemple je veux calculer les variations de volume d'un système matériel. Si je veux, là j'ai la capacité de calculer dv point, si maintenant je veux calculer v point, la dérivée par rapport au temps du volume d'un système matériel que je suis dans son mouvement, ben, il suffit d'intégrer trace de d sur la configuration actuelle et vous aurez le résultat. D'accord? Vous ferez sûrement des exercices comme ça, aujourd'hui ou un autre jour, ou voilà. D'accord? Voilà. Ok, ben je suis presque à l'heure en fait. Donc maintenant, je reviens à... Ben, tiens, on va appliquer ça à ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que je suis capable de calculer, par exemple, les variations de volume dans la situation de trajectoire radiale? Ok? Alors bon, ben, on avait établi la structure du champ eulérien des vitesses dans le cas des trajectoires radiales. Je vous rappelle, F point sur F multiplié par petit x. Donc c'est la situation extrêmement simple parce que quand je vais calculer la matrice jacobienne, il faut que je dérive évidemment F point de t sur F de t est insensible à la dérivation par rapport aux coordonnées d'espace. Donc je dois prendre la matrice jacobienne de l'application qui a petit x associé petit x. D'accord? Son terme général, c'est des ronds petit xi sur des ronds xj, c'est donc évidemment delta et j, le symbole de Kronecker. Donc ça veut bien dire que la matrice jacobienne de l'application identité, qui a petit x associé petit x, c'est la matrice identité. C'est aussi la matrice du tenseur métrique que nous notons ici, donc delta, pour se souvenir que justement cette matrice, c'est la matrice identité. Dans le terme général, c'est le symbole de Kronecker. Ça va? C'est compris ce que je raconte? C'est pas fumeux? Bon. Alors maintenant que je sais calculer le gradient, ben je sais aussi calculer le taux de déformation, mais ici c'est immédiat parce que gradient de U, dans cette situation particulière, se trouve être symétrique. Donc gradient de U et D sont ici une seule et même personne. D'accord? Donc D c'est aussi F point de T, F prime de T, pardon, sur F de T delta. Ça veut dire que je trouve tout de suite le taux de déformation volumique, donc je peux le calculer. Et ce que j'aimerais voir, c'est si j'arrive à retrouver ce que je savais d'avance. Parce que bon, la transformation qui est ici, ça s'appelle comment en mathématiques ça? La transformation qui, à grand X, associe f de t fois grand X. C'est une homothétie de rapport f de t. Et c'est quoi les changements de volume dans une homothétie? C'est le cube, bien sûr, du rapport d'homothétie. Oui ou non? D'accord? Donc là, j'ai un petit dessin, c'est pas un cube, c'est un carré, mais c'est pour exprimer les choses, d'accord? Je passe du bleu au rouge, d'accord? Dans le cadre d'une homothétie de rapport F de T, ben, le changement de volume de mon volume, ce sera évidemment, il est obtenu en multipliant le volume initial par le cube du rapport d'homothétie. D'accord? Donc je connais déjà le résultat. Si DV0, c'est la configuration initiale, DVT, donc là je me place d'un point de vue lagrangien, hein, j'ai une configuration initiale, je ne suis pas entre deux configurations infiniment voisines, je connais la configuration initiale, qui a le volume dans lequel mon bazar a le volume DV0, et puis à l'instant t, n'importe lequel, pas forcément petit, eh ben il aura un autre volume qui est dvt. Quel est le rapport entre dvt et dv0? C'est le cube du facteur du rapport d'homothétie. Bon, ça je le sais, parce que je suis un petit peu allé à l'école. Mais maintenant, je voudrais voir si ça colle avec notre nouvel ami qui est le fait que je sois capable de calculer le taux de déformation volumique. Bon, ben, on va prouver le mouvement en marchant. Regardez, j'ai écrit ici trace 2D. Trace 2D, c'est, en place d'examen, ce qu'est trace 2D. Trace 2D, c'est le taux de déformation volumique, donc le dv point sur dv. D'accord? Sa valeur numérique. Sa valeur numérique, c'est tout simplement la trace 2D. Mais la trace 2D, elle est ici. Or, f point de t sur f de t, c'est une dérivée quand je prends la trace 2D. Je trouve f point de t sur f de t multiplié par la trace de delta. La trace de delta, c'est la trace de delta. 3. D'accord? Donc la trace 2D, c'est 3 fois f' de t sur f de t. Et 3 fois f' de t sur f de t, vous êtes d'accord avec moi, bah, que c'est la dérivée logarithmique de f cube. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. 3 fois dérivée sur dt de log de f de t, c'est la dérivée de f cube. De log de f cube. Oui? Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour obtenir le résultat? Bah, il me reste à intégrer. Regardez. Hein? Si je suis par intégration, si j'intègre cette affaire-là, d'accord, bah, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver évidemment 3 log de f de t sur f de 0. Or, f de 0, ça fait 1. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que je retrouve évidemment ce que j'attendais à partir de la définition de la trace 2D comme taux de déformation volumique. Il me suffit de procéder à une intégration entre l'instant initial t égal à 0 et l'instant actuel. Ça va? Vous referez le calcul par vous-même pour vous en convaincre. Mais évidemment, c'est juste pour jouer, hein, pour se rendre compte que, bah, évidemment, les deux points de vue, ça c'est un point de vue directement lagrangien, mais je peux retrouver ce résultat par intégration sur l'intervalle d'étude si j'ai à ma disposition le taux de déformation volumique. Oui? Ok. Alors, bon, on s'est convaincu un petit peu que D était un outil prometteur sur l'exemple de la déformation volumique. Maintenant, on va voir que on est capable de dire beaucoup de choses très concrètes rien qu'en regardant la matrice du tenseur taux de déformation dans une base orthonormée. Ok? Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est comment suis-je capable d'interpréter les termes de la matrice de mon tenseur taux de déformation dans une base orthonormée. Et que quand je vais la voir, cette matrice, je vais pouvoir mentalement me figurer un certain nombre d'informations sur les changements de géométrie locaux. Toujours se souvenir que l'information qui m'est donnée est une information relative au voisinage du point où je calcule le taux de déformation. Une autre façon de dire ce que je viens de dire, c'est que vous pensez peut-être, mais c'est quand même vachement abstrait, en partie symétrique du gradient de U, il y a deux jours je suis passé avec le gradient dans le champ de vecteurs, je suis déjà en train de calculer la partie symétrique de son gradient. Oui, non, mais ça c'est vrai, ça va vite. D'accord? Mais en même temps, c'est très concret, c'est-à-dire que les termes de la matrice de D vont avoir une signification qu'on peut évaluer sur un dessin. Et c'est en particulier ce que faisaient les expérimentateurs autrefois. Maintenant, ils ont des techniques un petit peu plus électroniques, avec des mesures de choses par des caméras, mais le point de vue pour calculer les déformations consiste quand même, à la base, à faire de la géométrie et à regarder des dessins. Ok? Alors, on va se convaincre de ça d'abord sur l'interprétation des termes diagonaux. Vous avez le résultat qui est marqué sur la première ligne. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'applique la définition intrinsèque du taux de déformation, c'est comme ça que je l'ai appelé tout à l'heure, dans le cas particulier où je fais coïncider le vecteur dx et le vecteur dx'. D'accord? Je prends dx égale dx' et j'applique la règle. À ce moment-là, je ne calcule pas la dérivée du produit scalaire dx, dx', je calcule la dérivée par rapport au temps du carré scalaire. Oui, dx carré. Oui, c'est quoi le carré scalaire? C'est le carré de la longueur. Donc quand je dérive par rapport au temps le carré de la longueur, je vais trouver évidemment 2 dl, dl point. Si mon vecteur a pour longueur dl à l'instant t, d'accord, son carré scalaire, ce sera dl2, et la dérivée du carré scalaire, ce sera 2 dl, dl point. Oui? Ça va? Bon, donc je sais déjà ce que je suis en train de calculer. Je suis en train de calculer cet objet. Je suis en train de calculer notamment la variation de longueur. Ah ben ça, c'est quand même une information sur la déformation. C'est même une information fondamentale. L'isométrie conserve les longueurs. Une transformation, en général, ne conservera pas les longueurs. Donc, il y aura bien un dl point. D'accord? Bon, alors, j'ai pris mon vecteur, par exemple, j'aurais pu faire autrement, par exemple, collinéaire au premier vecteur de base. D'accord? Donc, mon vecteur s'écrit dle1. Si je mets dle1 dans cette formule, je vais trouver dle1 contracté avec d, contracté avec dle1. Donc, évidemment, comme c'est bilinéaire, le dl sort, ça me fait un dl carré, il est là, le dl carré. Et puis je trouve E1 contracté avec D contracté avec E1. Vous avez encore la formule ici. Hein, D appliqué à E1, E1, E1 contracté avec D contracté avec E1. c'est le terme 1,1 de la matrice du tenseur en question. Oui ou non? Ah, ce sont des choses qu'on a vues ensemble, que vous avez vues en TD. Si ça, ça vous paraît difficile, c'est que vous n'avez pas encore bien digéré la séance de lundi. Hein. Donc ça, c'est important de... Voilà. Donc j'en suis là, puis évidemment, maintenant, je divise par BL, et je trouve le résultat qui est ici. Simplifie par 2. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Tout à l'heure, on avait parlé du taux de déformation volumique, la dérivée par rapport au temps du volume divisé par le volume. Là, j'ai le taux de déformation longitudinale, la dérivée de la longueur divisée par la longueur. D'accord? Attention, ça ne marche que pour des petits vecteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que à côté, ce n'est pas la même vie. C'est un autre tenseur qu'il faut utiliser. Et ça vous renvoie bien à la notion de champ de tenseur. Tout ce que nous faisons ici est une description locale. Mais ça suffit, parce que intrinsèquement, la notion de déformation est locale. Même si dans certains cas, on considérera des transformations qu'on appellera homogènes, c'est-à-dire où la déformation sera la même en tout point de l'espace. C'est souvent ce que cherchent à faire les expérimentateurs qui veulent caractériser le comportement des matériaux, réaliser des expériences dans lesquelles la déformation est la même partout parce que c'est plus facile à instrumenter et à exploiter. Ça va? Bon, donc déjà, tous mes termes diagonaux, évidemment ça c'est pour 1, mais ça marche aussi pour 2 et 3, quand je vois un terme diagonal, déjà s'il n'est pas nul, ça veut dire que ça se déforme, au sens de votre petite sœur, hein, c'est-à-dire que c'est plus la même longueur qu'avant. D'accord? Donc au sens de tout le monde, plus exactement, parce que sinon, voilà. Si c'est positif, c'est que ça s'est allongé. Si c'est négatif, c'est que ça... Donc vous voyez que ce n'est pas si abstrait que ça. Déjà, le signe est signifiant, d'accord? La nullité veut aussi dire quelque chose? Oui. En particulier, si je ne l'ai pas dit, mais j'ai un transparent là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer. Si je prends une transformation de corps rigide, il va valoir quoi? D? Il va valoir 0. Si ça marche, mon truc, hein? Alors zéro, ça ne se déforme pas. D'accord? En particulier, il n'y aura pas de changement de longueur. Les longueurs sont conservées. Donc dans une transformation de corps rigide, évidemment, la diagonale serait nulle. Il n'y a pas que la diagonale, aussi les termes non diagonaux, comme on va le voir tout de suite. Alors, maintenant, une autre notion. Alors, la première notion, c'est taux de déformation longitudinale. Elle sera renseignée par les termes diagonaux. Okay? Maintenant, les termes non diagonaux. Est-ce que je sais en dire quelque chose? L'idée, ça va être maintenant, regardez, je prends deux vecteurs dans la configuration AT, qui sont initialement perpendiculaires. Okay? Et par exemple, ils vont être alignés selon le vecteur E1 et selon le vecteur E2. D'accord? Donc j'ai pris mon DXT selon DLE1, mon DXT' selon DL'E2. D'accord? Évidemment, les longueurs vont changer, les orientations vont changer. Donc ces deux gars-là, je vais les retrouver ici, à l'instant ultérieur, à l'instant tau, qui est plus grand que T. D'accord? Oui? Bon, alors pareil, je vais appliquer... elle est ici, la définition intrinsèque du taux de déformation pour savoir ce qui se passe. Donc je vais calculer de deux manières la dérivée par rapport au temps du produit scalaire. Il y a la manière savante que nous avons vue tout à l'heure, elle est ici. Donc il suffit de remplacer DXT par DLE1, DXT' par DL'E2. Comme c'est bilinéaire, à nouveau, je vais avoir du DL'DL' en facteur. Il me restera E1 contracté avec D contracté avec E2, c'est la formule qui est ici. Et donc je vais trouver 2 DL'DL' D1, 2. On est d'accord? Bon, ça c'est le point de vue savant. Maintenant, le point de vue artisanal. Le point de vue artisanal consiste à dire, à n'importe quel instant, voilà la configuration de mes deux vecteurs, d'accord? Ils ont une certaine longueur qui n'est plus la longueur DL1 ou la longueur DL2, d'accord? Ça va bouger. Et puis surtout, ils sont plus orthogonaux, a priori, parce que la transformation qui conserve les angles, c'est l'isométrie, mais, pas seulement, on verra au deuxième semestre qu'il y a des transformations qui conservent les angles, mais pas les longueurs. On appelle les transformations conforme, d'accord? Ce sera très utile pour nous. Mais pour l'instant, moi, ma transformation, elle, a priori, elle respecte pas. Elle conserve pas les angles, d'accord? Alors, les gens ont introduit un concept qui s'appelle le glissement. Le glissement, c'est le complémentaire de l'angle formé par les deux vecteurs. D'accord? Complémentaire. Ça veut dire que l'angle formé plus ce truc-là, ça fait pi sur 2. Ok? Donc voilà la définition du glissement. Le glissement, c'est le complémentaire de l'angle formé par mes deux vecteurs. Initialement, l'angle formé par mes deux vecteurs, c'était pi sur 2 dans mon petit travail là. Mais à un instant tau ultérieur, ce sera plus pi sur 2. Et donc il y aura un complémentaire, on l'appelle le glissement. Ok? Si les gens introduisent ça, c'est parce que c'est commode. Donc si je veux calculer, donc vous voyez que le produit scalaire, ça va être évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? C'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle. Le cosinus de l'angle, c'est le sinus du complémentaire. D'accord? D'où le fait que le produit scalaire, c'est DL, DL' sinus θ, avec DL, initialement, c'est DL indice T, DL prime initialement, c'est DL prime indice T, et puis le θ indice T, il vaut pi sur 2. On est d'accord ? Il vaut 0, pardon, puisqu'initialement, les vecteurs sont perpendiculaires. Ça va ou pas ? Bon, comment je dérive ce machin-là ? Je vais faire comme tout le monde. Je vais dériver DL, DL prime et laisser sinus θ tranquille, et puis après, je vais laisser DL, DL prime tranquille et je vais dériver le sinus. Et donc, je vais trouver, évidemment, un θ point cos. Pourquoi c'est très simple ? Parce que justement, dans l'exemple que je prends, initialement, θ vaut 0. Et donc, le premier terme ici s'en va. Et puis, le cosinus vaut 1. Et donc, c'est fini. Ça veut dire que le résultat du membre de gauche, il est ici, c'est dl, dl prime, θ point. Et donc, ce que je suis en train de raconter, après avoir simplifié par dl, dl prime, c'est que d1, 2 et θ point, au facteur 2 près, c'est une seule et même personne. C'est-à-dire que le terme D1,2 me renseigne sur la dérivée par rapport au temps de θ. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que si votre matrice est diagonale, les vecteurs initialement perpendiculaires le restent entre deux instants infiniment voisins. D'accord ? Il y aura conservation de l'orthogonalité. Si au contraire, votre matrice n'est pas diagonale, eh bien... D1,2 sera une mesure de la perte d'orthogonalité, de la non-conservation angulaire. Plus précisément, si D1,2 est positif, ça veut dire que votre angle, il devient quoi ? Initialement, c'est un angle droit. Si θ point est positif, c'est-à-dire que ce machin-là, c'est la situation que j'ai ici, ça devient un angle aigu. Si au contraire, θ point est négatif, ça devient un angle obtus. Donc vous voyez que quand vous regardez la matrice, maintenant vous savez tout. Les termes diagonaux vous renseignent sur les variations de longueur, les termes non-diagonaux sur les variations angulaires. Si vous avez retenu ça de la séance d'aujourd'hui, avec le TD qui va suivre après, vous avez déjà pas mal travaillé. Si tout à l'heure, cet après-midi, vous avez déjà compris ce que c'est qu'une matrice d'un taux de déformation, et si vous avez interprété les coefficients, si on vous donne, vous faites un snapshot à l'instant T, puis un snapshot ultra près à T plus DT, en comparant les deux dessins, vous verrez bien les variations de longueur et les variations d'angle. Si vous êtes capable de construire la matrice comme ça, en comparant les deux dessins, c'est que vous savez tout faire, c'est que vous avez pigé. D'accord ? Donc, très important, la mécanique, c'est quelque chose de concret. Si on était intelligent, on ferait des mathématiques, nous. D'accord ? Donc, on fait de la mécanique. Okay ? Donc, ça doit être très simple. Okay ? Il ne faut pas que vous disiez, c'est des choses abstraites. Ça n'est pas du tout abstrait, c'est extrêmement concret. Okay ? Ça va ? Voilà. Alors, je ne sais pas trop si... ce que j'ai encore à faire. Non, je vais laisser tomber ce truc-là, peut-être j'y reviendrai après. Ouais, parce qu'il faut que je vous parle de ligne de courant et de trajectoire. Alors, on verra les lignes de courant beaucoup plus en détail au semestre 2, parce qu'elles ont une très grande importance en mécanique des fluides. D'accord ? Mais on va déjà faire leur connaissance, ou plus exactement, faire leur connaissance dans le cadre du champ de vitesse, parce que vous savez déjà ce que c'est que les lignes de courant d'un champ électrique, d'un champ magnétique, et la définition ne change pas. D'accord ? C'est exactement la même chose, c'est l'entité physique vis-à-vis de laquelle on calcule les lignes de courant qui n'est pas la même, puisqu'ici ce sera les lignes de courant du champ de vitesse. D'accord ? Même si la notion de ligne de courant vient évidemment de la cinématique et qu'elle a ensuite été utilisée au profit de d'autres branches de la physique et d'autres entités vectorielles. Oui ? Alors, de quoi s'agit-il ? La définition, vous l'avez sous les yeux. Alors, ce qui est très important, c'est de lire d'abord ça. Les lignes de courant sont définies à un instant donné. Les lignes de courant sont des choses dont la nature est strictement géométrique. Elles n'ont pas de passé, elles n'ont pas d'avenir, d'accord ? C'est vraiment quelque chose de triste, d'accord ? Ce sont des entités qui sont définies à chaque instant, mais pour cet instant seulement. Et à un instant ultérieur, ce sont d'autres objets, d'accord ? Et qui ne se connaissent pas. Ça va ? Donc ce sont des objets sans histoire. Très très important. Ok ? Elles sont définies comment ? Eh bien, je me place à un instant, et à cet instant, je vais déterminer les arcs de l'espace qui, en tout point, ont la propriété d'être tangents à la vitesse au point considéré. C'est tout. Donc c'est juste un problème de mathématiques. Ça va ? Vous cherchez les arcs de l'espace qui, en chaque point de ces arcs, ont la propriété que la tangente à cet arc est collinéaire à la vitesse eulérienne. Ça va ? Vous avez fait exactement la même chose pour E et B, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais ce sur quoi j'insiste, puisqu'ici nous sommes dans de la cinématique, c'est que c'est une construction qu'on va faire au profit d'un instant donné. Et que si on s'intéresse à un autre instant, bah, il faut recommencer le travail. D'accord ? Voilà. Alors, je mets un petit peu de choses. Ce qui est important, c'est ce que c'est qu'un arc. Un arc, c'est une application d'un intervalle de R dans R3. OK ? Et ici, j'ai mis une notation, par exemple, abscisse curviligne, mais surtout pas le temps. Ça n'a rien à voir. OK ? Surtout pas le temps. C'est n'importe quoi. Ça peut être, dans certains cas, vous prendrez, je ne sais pas, moi, θ, si vous êtes en coordonnées cylindriques, l'abscisse curviligne, ce que vous voulez. Vous la notez comme vous voulez, peu importe. Okay, vous avez un paramètre qui vous permet de décrire un arc. Vous avez fait un tout petit peu de géométrie différentielle. Au moins, je pense, vous avez appris à construire un ou deux arcs. D'accord, bah, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, une application de R dans R3. Et la propriété est ici. C'est que la dérivée x' de S, donc la dérivée de cette application par rapport à l'abscisse curviligne ou par rapport aux paramètres que vous utilisez pour représenter spatialement cet arc, d'accord, ça va vous donner évidemment, au moins ça je pense que vous le connaissez tous, le calcul de la tangente à un arc. Je dérive, si j'ai une application M de S, je dérive M par rapport à S, je trouve un vecteur, c'est le vecteur tangent, il n'est pas forcément unitaire, il est ce qu'il veut. Si j'ai pris l'abscisse curviligne, il est gentil, il est unitaire, mais on s'en fout, d'accord. Et surtout ce truc-là, il est collinéaire à la vitesse, telle qu'elle existe à, en ce point, x de S, à l'instant T, qui n'a rien à voir avec S. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu insistant là-dessus. OK ? Voilà. Donc le temps figure ici simplement comme un paramètre. Il ne bouge pas. Il a été choisi une fois pour toutes. D'accord ? C'est 8h32. Et à 8h32, on calcule les choses. Oui ? Donc là, évidemment, j'ai exprimé la collinéarité. Ça s'exprime, par exemple, en cartésienne orthonormée de manière assez commode. D'accord ? Donc j'ai pris un repérage cartésien. J'ai donc trois applications scalaires, x de s, y de s, z de s. Pour avoir le vecteur tangent, je dérive, il sera unitaire si S est la piste curviligne. Je dérive ce vecteur par rapport à S et j'exprime qu'il est collinéaire à la vitesse en ce point. D'accord ? Quand vous faites le calcul, vous allez trouver en fait trois égalités qui sont ici. D'accord ? Ce qui manquerait ici, c'est un égal à dS. D'accord ? Chacun de ces quotients est égal à dS. Okay ? J'ai écrit que dx sur dS, etc. etc. Okay ? Voilà, donc exprimer le caractère collinéaire. Et donc, si je veux déterminer, on ne va pas y passer la journée, si je veux déterminer les lignes de courant, je cherche les solutions de ce problème différentiel. D'accord ? Pas toujours très simple à résoudre, d'accord ? Mais encore une fois, pour nous, ce sera quelque chose qui sera particulièrement important au deuxième semestre. Oui ? Un exemple. Un exemple, mettons que je prenne un exemple téléphoné. D'accord ? Je prends le champ aérien des vitesses, et puis il s'écrit F de R θ. Tiens, où est passé le temps ? Pourquoi il n'y a pas de temps là ? Ça s'appelle comment ? La situation où le champ aérien des vitesses ne dépend pas explicitement du temps, pour ceux qui ont fait un peu de mécaflux. Ça s'appelle un régime stationnaire ou permanent. On est d'accord ? Champ aérien des vitesses ne dépend pas du temps. On est en régime permanent. Bon, ça jouera un rôle intéressant. Ça aura une propriété particulière que je vais énoncer dans un instant. Et puis, je suppose qu'en fait, mon champ des vitesses, il est, j'ai encore donné cylindrique, même on peut se placer directement dans le plan, on peut oublier la troisième direction de l'espace. Mon champ de vitesse, il a la propriété d'être orthoradial en tout point. Et qui plus est, en fait, il ne dépend que du rayon. F de R, θ. Ça va ? Bon, très bien. Je cherche les lignes de courant. Ça va être quoi ? Ça va être quoi ? Ça fait que tourner comme ça. Si ce n'est pas des cercles, c'est qu'on n'a pas de chance. D'accord ? Bon. Alors, on va le faire ensemble. Je ne suis pas très adroit. Je vais me placer en cartésienne. Ce n'est pas forcément très heureux puisque je définis mon champ eulérien en cylindrique. Mais ça nous fait faire un tout petit peu de calcul. Vous voyez bien que Eθ, c'est quoi ? Eθ, c'est moins sin θ. Enfin, c'est sin θ. C'est quoi Eθ déjà ? Eθ, il est là. D'accord ? Donc, vous avez votre sin θ que vous retrouvez ici pour Ux, d'accord ? Qui est Y sur R. Et vous avez votre cos θ qui est X sur R au profit de Y. D'accord ? Vous avez projeté votre vecteur Eθ sur Y. Il y a le cos de θ, c'est-à-dire X sur R. Vous allez le projeter sur X, évidemment ça change de signe, et vous avez votre sinus qui est ici avec le signe au moins. D'accord ? Et vous écrivez ici les choses, c'est-à-dire, alors UZ évidemment est nul dans cette affaire, donc puisque UZ est nul, je retrouve qu'il faut que DZ le soit également, c'est-à-dire que mes lignes de courant seront situées dans des plans. DZ n'a pas le droit de bouger. OK? Je m'intéresse aux deux premières relations, et donc simplement à cette égalité. Je vais remplacer ux par sa valeur, y par sa valeur, et je vois que je peux simplifier par f de r sur r. Donc ça veut dire que cette égalité va tout simplement écrire que va s'écrire moins dx sur y égale dy sur x. Voilà, moins dy sur y égale dy sur x. OK? Et donc, vous pouvez encore la mettre sous la forme x dx plus y dy égale à 0. C'est donc la différentielle au facteur de près de x carré plus y carré. Et ça vous dit donc que x carré plus y carré ne change pas. Donc, ces arcs sont bien des cercles centrés à l'origine. OK? Donc, si vous avez une vitesse orthoradiale, en l'occurrence ici, elle a été choisie indépendante, mais vous voyez que j'aurais très bien pu la faire dépendre de θ, ça ne changeait pas le résultat. Ça ne changeait pas le résultat parce que si f est non pas seulement fonction de r, mais aussi de θ, de toute façon, ça va simplifier aussi bien que dans le cas précédent. Oui? Donc, quand mon mouvement est purement, mais mon champ des vitesses est purement orthoradial, je trouve que les lignes de courant sont des cercles. Ça va? Voilà, c'est un exemple. Alors, les trajectoires. Les trajectoires, c'est pas du tout pareil. Trajectoire, c'est très naturel. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? Vous l'avez fait plein de fois. Vous avez fait des trajectoires de particules matérielles quand vous étiez en sup ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, vous connaissez ça fort bien. Pour connaître la trajectoire d'une particule, il suffit de la suivre dans son mouvement sur l'intégralité de l'intervalle d'étude. Et j'aurai la trajectoire. OK? Et on va avoir une surprise, c'est qu'on va trouver un problème différentiel qui ressemble beaucoup. Qui ressemble beaucoup. Mais attention aux différences qui peuvent cependant apparaître. Alors, quel est le problème différentiel qui me permet de trouver les trajectoires? En fait, ce problème différentiel, il est extrêmement intéressant parce que ma donnée, c'est quoi? Ma donnée, c'est le champ eulérien des vitesses. Et le résultat, c'est quoi? Ce que je veux obtenir, c'est les trajectoires. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous, dans le cadre de ce transparent, c'est ni plus ni moins que faire le passage de la description eulérienne à la description lagrangienne. Donc, je suis en train de vous montrer le mode d'emploi général. Tout à l'heure, on a fait le contraire. On était passé de Lagrange à Euler dans le cadre de mes transformations radiales. Là, je fais le contraire. Enfin, la réciproque. C'est-à-dire que je suis équipé de la description eulérienne du mouvement et je cherche la description lagrangienne du mouvement. Comment je fais? J'écris la définition même de la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position sur la trajectoire, x point, je la connais. Je la connais. Elle m'est donnée par u au point considéré. Donc, actuellement, je suis en x de t. Donc, la vitesse dont est équipée cette particule, qui à l'instant t est en x de t, par définition même de la description eulérienne, c'est u de x de t virgule t. Si vous savez bien écrire ce truc-là, c'est que vous avez compris la description eulérienne du mouvement. D'accord? Ça, le membre de gauche veut dire que le résultat, c'est une vitesse. C'est la vitesse de ma particule. De quelle particule? La particule qui, en ce moment, est au point x de t. D'accord? C'est immédiatement petit u de petit x de t virgule t. Ça va? Encore une fois, méditez bien ce truc-là tout seul. Si vous l'avez pigé, c'est que vous avez compris ce que c'est qu'un repérage eulérien. Donc ça, c'est un problème de Cauchy. Vous en avez regardé quelques-uns en prépa, d'accord? Vous savez, vous avez besoin d'une condition initiale. La condition initiale est toute simple. C'est qu'à l'instant initial, cette particule était dans sa position initiale par définition, d'accord? Nous avons appris à noter grand X, d'accord? Si je sais résoudre ce problème, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé la trajectoire de la particule initialement grand X, d'accord? C'est tout simplement la fonction que nous avons notée tout à l'heure, phi de grand X, c'est T. Donc c'est ça le problème différentiel qui me permet de passer de l'air à Lagrange. OK? Illustration. Illustration en cartésienne. Et quelqu'un dit, c'est juste comme tout à l'heure. Erreur. Regardez bien comment c'est. Ce que j'ai écrit, c'est tout simplement, je me place en cartésienne. Donc mon vecteur position, il a évidemment trois coordonnées, petit x de t, petit y de t, petit z de t. Cette fois-ci, il n'y a plus de trait, c'est les trois coordonnées du vecteur avec un trait en dessous. Ça va? Et je vais donc avoir x prime de t égale ux, y prime de t égale uy, z prime de t égale uz. On est d'accord? Vous voyez bien ce que je veux dire. Et j'ai rassemblé ces trois égalités ici. Parce que chacune de ces quantités, vous voyez, vous avez dx sur dt égale ux, dy sur dt égale uy, dz sur dt égale uz. Vous avez bien exprimé en fait, cette égalité de votre problème différentiel. Oui ou non? Bon, ben, quelqu'un dit, ben, c'est pas ce qu'on avait écrit tout à l'heure. On avait écrit juste pareil. Oui, mais attention, ici on avait écrit U, je ne l'ai pas répété ici, j'aurais dû, on avait U de X de S. S, c'était quelqu'un qui bougeait, justement, c'était l'abscisse curviligne, d'accord, qui me permettait de paramétrer cet arc, qui était défini à l'instant T, virgule T. Alors que là, bah, T, il figure deux fois. T, il figure dans la position et il figure comme paramètre. Mais c'est la même personne. C'est-à-dire que le paramètre naturel, les trajectoires aussi, ce sont des arcs. Et elles ont un paramètre naturel, c'est le temps. Évidemment, ça veut dire que les trajectoires, par construction, ce sont des objets historiques, alors que la ligne de courant ne l'est pas. C'est compris la différence fondamentale? Évidemment, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que si je suis en régime permanent, eh bien, ce que je viens de faire apparaître comme une différence fondamentale entre les deux problèmes différentiels, bah, ça disparaît. Si je suis en régime permanent, c'est ce T-là qui dégage. D'accord? U est toujours fonction de la position. D'accord? Donc, j'ai bien un X de T. Le T est bien présent dans la position de la particule. Par contre, le deuxième argument, c'est-à-dire le temps explicite, ici, bah, il disparaît. Si je suis en régime permanent, on est d'accord ou pas? Si le champ euclidien de la vitesse ne dépend pas explicitement du temps. Et à ce moment-là, bah, évidemment, les problèmes différentiels coïncident, ce qui veut dire que les trajectoires, ce ne sont toujours pas du tout des entités de même nature que les lignes de courant, mais géométriquement, le lieu des trajectoires, ce sera les lignes de courant. C'est-à-dire qu'on retient souvent, et c'est même peut-être moi qui l'ai marqué, ce n'est pas très malin, on dit, ouais, en régime permanent, ligne de courant et trajectoire coïncident, j'aime pas très, je l'ai écrit. C'est pas très malin. D'accord? Il faudrait dire, le lieu géométrique des trajectoires coïncide avec les lignes de courant. Parce que les trajectoires, ça reste des objets historiques. OK? Oui? C'est compris? Je vais finir par un exemple, sinon, voilà. Alors, un tout petit exemple, très vite, d'accord, pour montrer justement que, dans certains cas, ça marche pas. Voilà. Je prends ici, voilà, c'est un exemple qui se fait assez bien. Je suis en coordonnées cylindriques, d'accord. Et je vais chercher les trajectoires. Et puis, vous aurez un petit exercice à faire, si vous le souhaitez, pour vérifier le résultat que j'annonce en ce qui concerne les lignes de courant. Comment je trouve les trajectoires de ce truc-là? Je vais pour une fois, justement, me placer en coordonnées cylindriques, d'accord. Je ne fais pas figurer. J'ai pas besoin de le faire, le terme selon Z, puisqu'il n'y a pas de composante selon Z pour ce qui est de la vitesse. Donc évidemment, mes trajectoires seront dans un plan perpendiculaire à Z. D'accord? C'est pour ça que je caractérise la position tout simplement par R, ER. Évidemment, R dépend du temps et θ dépend du temps. Donc la dérivée, ça, ce calcul-là, vous l'avez fait, je sais pas quoi, au mois d'octobre il y a 2 ans. Hein. Donc vous savez très bien faire ce genre de truc. La dérivée de la position en coordonnées cylindriques, là, vous allez avoir du R.ER plus du R.θ.Eθ. Je ne vous apprends rien. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à identifier les composantes des deux vecteurs ER et Eθ pour former votre problème de Cauchy. D'accord? Donc, vous allez avoir R. égale alpha R lambda T. Donc, encore R. sur R égale alpha lambda T. Alpha et lambda, ce sont des constantes ici dans mon bazar. Et puis, vous allez avoir R.θ. égale alpha R. Donc, θ. égale alpha. Bon, l'intégration est immédiate, d'accord? Quand vous intégrez R point sur R, vous allez avoir du log de R sur R0 égale lambda alpha T carré sur 2, d'accord? Ben voilà. Et puis l'intégration de θ vous dit qu'en fait θ augmente proportionnellement au temps. Oui? Pour trouver, ça c'est déjà la trajectoire. C'est ce qu'on appelle la forme paramétrique de la trajectoire. C'est-à-dire j'ai exprimé les deux coordonnées d'espace, c'est-à-dire ici le rayon et l'angle polaire, en fonction d'un paramètre, et je vous ai dit que le paramètre naturel pour les trajectoires, c'est le temps. Bien sûr, si je veux maintenant le lieu géométrique, j'élimine le temps. Là, j'ai tout. J'ai la trajectoire sous forme paramétrique, plus la loi horaire. Si j'élimine le temps, j'aurai le lieu géométrique, mais je vais perdre la loi horaire. Alors, c'est ce que je fais. J'élimine le temps entre ces deux équations, et je trouve que l'équation générale des trajectoires, c'est ce machin-là. OK? Mais ça, ça me donne simplement le lieu géométrique. Ça me donne pas, me permet pas de me promener. Oui? Ici, je ne le démontre pas, mais vous pourrez faire ça à titre d'exercice. Vous vérifierez que dans ce cas, trajectoire et ligne de courant ne coïncident pas. Pourquoi? Parce que je suis visiblement pas en régime permanent. Le champ aérien des vitesses dépend explicitement du temps. Oui? Ça va? Bon, on a bien travaillé. Donc on va s'arrêter là, puis prendre une petite pause et puis se retrouver donc dans un instant pour les petites classes. Je rappelle que les élèves du groupe 3 et de la moitié du groupe 4 sont en B04. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent transhumer jusque dans l'autre bâtiment. OK ? Donc vous essayez de pas tarder. Merci par avance.